France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelle est l'histoire de nos regards sur le ciel ? Décidons d'appeler monde tout ce avec quoi nous sommes en interaction. Le ciel étoilé tel que nous le voyons ici-bas, à l'œil nu, la terre et sa matière, la lumière, la végétation, les animaux, les montagnes, très important les montagnes, l'air, les fleuves, les océans, les glaciers, et bien d'autres choses encore. Bref, le monde désigne ici cela dans quoi notre corps vit, respire, perçoit, voyage, réfléchit, imagine, pense et rêve. Ce monde-là, parce qu'il nous impose toute l'autorité de sa présence, occulte l'univers tel qu'il se déploie au-delà de lui. Parfois, il nous dupe à son sujet. Je ne parle pas ici des effets de la pollution lumineuse, cette lumière artificielle visible en extérieur qui, la nuit, prive un nombre croissant d'êtres humains du spectacle de la Voie lactée. Non, c'est notre monde tout entier qui fait souvent écran entre l'univers et nous. Il est pour nous l'équivalent de la mer pour les poissons. Physiquement condamnés à demeurer au sein de leur habitat liquide, ils ne peuvent guère distinguer ce qui se passe en dehors. En somme, par la pédagogie à la fois trompeuse et convaincante qu'ils distillent implicitement, notre monde fait office de masque. Selon les circonstances, il agit comme un trompe-l'œil, un voile, un filtre, une feinte, une parodie, un écran, un semi-conducteur, un exil, une caverne à la Platon d'un nouveau genre. Il y a de l'erreur dans son air, des leurres dans ses lueurs apparentes, des mondanités trompeuses dans ses manières, des pièges sournois dans ce qu'il montre et semble démontrer. Mais heureusement, au fil du temps, les corps et les esprits humains, aidés par des instruments de plus en plus sophistiqués, ont su faire alliance pour comprendre ce qui se déroule hors de la portée de notre regard, à l'autre bout de l'univers. Quelle est donc l'histoire de cette sorte de révélation par laquelle nous autres les humains avons fini par percer certains secrets de l'univers? Pour répondre à cette question fort vaste, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Léna. Bonjour.
Bonjour Étienne.
Vous êtes astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, créateur entre autres choses de La main à la pâte, nous y reviendrons peut-être. Et vous venez de publier avec Christian Grataloup, qui est géographe, et toute une équipe de chercheurs qui a collaboré avec vous, un atlas historique du ciel. Absolument passionnant, plusieurs centaines de pages, magnifiquement illustrées. Évidemment, nous n'aurons pas le temps d'évoquer toutes les questions, toutes les histoires que vous racontez, toutes les découvertes que vous résumez. Mais je voulais d'abord vous demander, Pierre Léna, comment est-ce que ce projet est né? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de rédiger, de publier un atlas historique?
L'histoire des sciences m'a toujours passionné, Étienne. Et vous connaissiez comme moi Michel Serre, c'est avec lui que dans les années 80, il y a donc près de 40 ans, nous avions conçu ce film « Tour du monde, tour du ciel » avec Robert Pensard-Besson, un réalisateur remarquable. Et je suis toujours surpris, 40 ans après, de rencontrer des hommes et des femmes qui me disent « ça nous a tellement marqué, cette histoire du ciel ». Ça, pour certains, ça a même orienté leur vie. J'ai eu des étudiants en astrophysique qui avaient décidé ce jour-là, en voyant ces 10 émissions à la télévision, de devenir astronomes ou chercheurs eux-mêmes.
C'est ce que va faire cette émission, je vous préviens.
On verra. En tout cas, j'avais cette fibre. Et puis après, dans ma carrière scientifique, j'ai eu l'occasion de voir combien une idée nouvelle avait des racines, en particulier pour la construction de notre grand télescope au Chili, et des racines historiques profondes pour la France, un siècle, deux siècles, parfois plus, une filiation. Et donc, arrivant au terme de ma vie, ou pas loin, j'ai eu envie de relire l'ensemble de l'histoire des rapports des humains avec le ciel, qui est à la fois une histoire de connaissance, comme vous l'avez dit, trompeuse et convaincante, et d'où sort notre science moderne, mais aussi une histoire de toutes sortes d'autres rapports poétiques, spirituels, religieux, de pouvoir avec le ciel. Et c'est pour ça que, ayant convaincu sans aucune difficulté Christian Grataloup, professeur comme moi à Paris, Université de Paris Cité, nous nous sommes embarqués ensemble dans l'aventure. Et je dois dire que le regard de l'historien, il n'est pas là aujourd'hui avec nous.
Historien-géographe.
Historien-géographe, ou comme il dit, géo-historien, comme il s'appelle, c'est le titre d'un de ses derniers livres. Nous avons fait tandem pour que je ne dise pas de sottises en histoire.
Mais qui a fait quoi dans cet ouvrage ? Vous, c'est la science, lui, c'est l'histoire ?
Écoutez, c'est peut-être pas exactement ce partage. Moi, j'ai tenté de construire une vision de l'histoire qui a abouti à la science moderne du ciel. Et lui m'a donné l'interface géopolitique, sociale, parfois économique, de cette histoire. Et ça s'est traduit par les cartes nombreuses hein, qui de la Terre, des États, des pays, des puissances, des guerres éventuellement, qui illustrent une partie de l'Atlas.
J'ai parlé de la pollution lumineuse, Pierre Lénard, vous en parlez également. Vous dites que finalement l'univers ne se regarde plus, on le voit au travers d'écrans, on ne le voit plus directement.
Ça, c'est dommage. Parce
on a perdu le lien.
Fondamentalement, d'où sort toute cette histoire ? De l'expérience de l'être humain qui se lève, bipède. Alors, évidemment, nous n'avons pas de témoignage historique depuis le million d'années où progressivement Sapiens a émergé. Mais la station debout, qui caractérise ce processus d'hominisation pour tous les paléontologues, est aussi le moment où l'homme peut regarder le ciel autrement qu'un animal à quatre pattes. Et ce moment est un moment de mystère, d'émerveillement. Beaucoup de nos auditeurs l'ont sans doute vécu, mais à condition de trouver la nuit noire, à condition d'être loin d'une ville et d'un lampadaire. Et c'est un moment d'expérience humaine extraordinairement fort. Et donc, qu'est-ce qui est sorti de cette expérience ? Toutes sortes de composantes que j'évoquais tout à l'heure, poésie, religion, science, géométrie, etc. Et c'est ça qui est intéressant à tracer dans l'histoire humaine.
Mais vous voulez dire que le fait que nous ne voyons plus la Voie lactée comme la voyaient nos ancêtres
est grave.
Fait que notre esprit se rabat sur le monde proche ?
Oui, sur des artefacts. On nous donne la Voie lactée à lire avec des magnifiques photographies faites par des télescopes. Mais rien ne remplace l'expérience personnel du mystère.
Il faut aller en montagne ou en bateau ?
Il faut aller en montagne, en bateau, mais il y a des villes partout. Je dois dire que les astronomes sont gâtés puisque leurs observatoires sont très loin, dans des endroits très protégés, et où ce ciel que l'on voit au Sahara, que l'on voit dans le désert au sud du Maroc...
Moi j'ai lu cet atlas, Pierre Lénard, comme une tentative réussie de réparer le lien que nous avons avec l'univers, que nous n'avons plus, comme nos anciens, avec l'univers. Et ça tombe bien, parce que j'ai remarqué que l'anagramme de Pierre Lénard, c'est « lien réparé ». Alors, il y a une partie, c'est la première de l'ouvrage, qui est consacrée au ciel tel que on le voit à l'œil nu, tel que l'ont vu pendant très longtemps les humains, avant l'invention de la lunette et des télescopes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce ciel qu'on voit à l'œil nu ? Est-ce qu'on peut en tirer des choses vraies ?
Oui, il y a dans ce livre une césure, à peu près au milieu de l'Atlas d'ailleurs. Hein. Parce que tant qu'il n'y a pas eu la première lunette de Galilée, le ciel était le même pour tous les êtres humains.
Pas au sud et au nord.
Pas quand on était très au sud, mais quand on est à l'équateur, on voit les deux hémisphères. Hein. Et puis plus au sud, on ne voit pas l'étoile polaire, et plus au nord, on ne voit pas la croix du sud. Mais enfin, fondamentalement, ces mouvements, ces formes, tout cela était commun à toute l'humanité. Donc, nous avions des êtres humains qui voyaient tous la même chose, mais qui l'interprétaient, le lisaient, le traduisaient dans leur culture, dans leur société, par des calendriers différents, par des mythes différents, par de la science différente. Et c'est cette situation qui a duré jusqu'à Galilée, début du XVIIe siècle, qui tout d'un coup s'est brisée, puisqu'il y a eu ceux dans les pays développés qui avaient des instruments et ceux ailleurs qui n'en avaient pas et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'en ont toujours pas aujourd'hui.
Donc Galilée a coupé l'histoire en deux, en quelque sorte.
On peut dire ça. L'histoire du ciel, en tout cas.
Alors, il y a des étoiles qu'on peut voir toute l'année, durant la nuit. Alors, d'où est-ce qu'on peut les voir et est-ce qu'elles sont nombreuses, ces étoiles qu'on peut voir tout le temps?
Eh bien, si vous êtes au pôle Nord ou au pôle Sud, vous voyez toute l'année les mêmes étoiles. Le pôle, l'étoile polaire, disons, à l'hémisphère Nord, est au zénith. Donc, toutes les étoiles tournent autour de cette étoile polaire et on voit toujours les mêmes. Et pendant la nuit polaire, ça tourne en permanence pendant 6 mois. Même chose au pôle Sud, sauf que maintenant, c'est la croix du Sud, qui n'est pas d'ailleurs exactement au pôle Sud, mais à une vingtaine de degrés du pôle Sud, autour duquel tout tourne. C'est très différent pour les basses latitudes. À l'équateur, cette fois, on voit toutes les étoiles des deux hémisphères célestes, Nord et Sud, mais on ne les voit jamais toutes en même temps. Et finalement, pour voir tout le ciel en même temps, eh bien, il faut être dans une capsule, dans l'espace, et là, on est entouré de la sphère céleste avec ses étoiles.
Alors, la Voie lactée, elle est visible toute l'année?
La Voie lactée, c'est une sorte d'anneau dans le ciel, donc c'est un anneau dont, pour nous, en France, à 1000 latitudes, entre équateur et pôle, nous voyons une moitié pendant l'été et l'autre moitié pendant l'hiver.
Mais tout le monde la voit en permanence, pas intégralement mais en permanence, mais comment on l'interprète, ça c'est soumis à des variations incroyables. Pour les uns, Héraclès notamment, c'est un enfant vigoureux, pour les Chinois ce sont des amants qui se rencontrent, ça peut être le trajet des âmes chez les Navarros, ça peut être la semence de Tan pour les Polynésiens, ça peut être l'échine de la nuit en Afrique australe, enfin bref, on y voit un peu ce qu'on veut. On projette la culture dans le ciel.
Ça a toujours été vrai, pas seulement pour la Voie lactée. La Voie lactée est doublement intéressante puisque personne ne comprend jusque Galilée que ce semis de lumière est en fait un semis d'étoiles. L'hypothèse a été avancée dans l'islam médiéval, également en Europe chrétienne médiévale, mais elle n'a jamais été prouvée tant que un instrument, ce qu'aujourd'hui on peut faire avec de simples jumelles, et je conseille à tous nos auditeurs, par une belle nuit d'été, de prendre des jumelles et regarder la Voie lactée et de voir ce semis d'étoiles que, en Afrique australe, les San disaient, c'est un dieu qui a pris une poignée de cendres mal éteintes et qui les a jetées dans le ciel, ça fait cette traînée de lumière. Oui. Donc la Voie lactée, c'est à la fois une traînée mystérieuse de lumière et le support de récits mythiques, mais liés à la culture, comme le sont les constellations.
Alors il y a évidemment notre satellite, la Lune, qui lui a fait vraiment beaucoup jaser, encore plus que la Voie lactée. À quoi est-ce qu'on l'associe et pourquoi est-ce qu'elle est, à votre avis, associée à tant de phénomènes humains ou non humains?
La Lune joue un rôle très différent parce que elle a cette variation. Le Soleil ne bouge pas. Les taches ont été découvertes très tard. Sinon,
il bouge pas en tant que structure. Son aspect ne bouge pas.
L'aspect, oui, bien sûr. Mmh. L'aspect du Soleil est resté le même, perçu par toutes les civilisations. De même les étoiles. Sauf quelques rares exceptions. Dans la constellation de Persée, une étoile, Algol, a été vue comme variable. C'est très étonnant, une étoile dont l'éclat varie périodiquement, une espèce de clignotant dans le ciel, par les Égyptiens. Il y a donc 40 siècles à peu près. Mais tout ça est immuable. Ça tourne, mais ça ne change pas d'aspect de forme. En revanche, nous avons parmi ces 7 objets célestes mobiles, Soleil, la Lune et les 5 planètes brillantes que l'on voit à l'œil nu, nous en avons un, la Lune, qui change constamment. Constamment avec une régularité, comme tous ces phénomènes ont d'ailleurs leur régularité, à commencer par les 24 heures du jour. Et d'où vient cette régularité? Les Grecs ont compris très tôt que c'était un objet qui était éclairé par le Soleil et dont la lumière nous était diffusée vers la Terre, comprenant au passage la lumière cendrée claire de Terre, un peu plus tard cela a été perçu, et dont le changement régulier, tous les mois, est une base extrêmement commode pour le calendrier. d'où tous ces calendriers lunaires, mais qui ne collent pas avec les calendriers solaires, puisqu'il n'y a pas un nombre précis entier de mois lunaires dans le mois, l'année solaire, hein. D'où la difficulté des calendriers lunisolaires, comme le calendrier chinois, par exemple.
Mais le fait que la Lune change d'apparence fait qu'on lui attribue une sorte d'humeur qui traduirait les évolutions de sa forme.
Voilà, d'ailleurs, à sa surface, ces grandes étendues sombres qu'on appelle à tort des mers, puisque ce sont pas des mers, portent des noms qui évoquent ça, la mer des crises, la mer des humeurs.
Alors, toutes les cultures, vous l'avez dit, Pierre Léna, voyant le ciel, l'ont interprété à leur sauce, si j'ose dire, mais vous parlez notamment des Mayas. Les Mayas qui, semble-t-il, étaient de très très bons astronomes.
Alors, dans beaucoup de cultures, l'astronomie, et j'emploie pas ce mot, est pratiquement pas dans l'Atlas, la connaissance du ciel est liée à la pratique de l'astrologie. Et l'astrologie ne joue pas, comme elle le joue peut-être pour certains de nos auditeurs dans leur vie quotidienne, je dirais grand bien leur fasse, elle joue un rôle par rapport au pouvoir de l'État. Un État incapable, un prince incapable de prédire un événement tel qu'une éclipse de soleil ou de lune, ou une conjonction planétaire, est un mauvais prince. Et ceci a été sensible en Occident, en Perse, chez les Aztèques, bien sûr. Donc cette pratique de lire dans le ciel des instructions pour le pouvoir, décidé par une puissance hypothétique, et à mon sens, et nous le mettons bien en évidence, je crois, dans l'Atlas, emblématique en Chine. Parce que l'empereur de Chine est le fils du ciel. Et pour la pensée chinoise, comme le développe bien mon collègue Bonnet Bidot, hein, il est au CEA, que vous connaissez, hein, pour la pensée chinoise, ceci dès le taoïsme, c'est-à-dire le 5e siècle avant notre ère, hein, tout est lié. Il n'y a pas le ciel d'un côté avec ses phénomènes et la terre de l'autre, un point de vue finalement que la physique retrouvera au 20e siècle en disant que les atomes d'hydrogène sur Terre sont les mêmes que les atomes d'hydrogène dans une galaxie lointaine et obéissent aux mêmes lois. Mais on mettra du temps à accepter cela. Et chez nos amis grecs, autour d'Aristote, le ciel et ses lois, et la Terre et ses lois, sont de nature radicalement différentes. Une vision qui a son avantage, mais qui mettra aussi du temps à être contredite par la simple observation du ciel et l'expérience. Donc, voilà, j'ai un peu perdu le fil de votre...
Je parlais des Mayas. Est-ce qu'ils se singularisent de ce point de vue?
Parce que les Mayas vont développer cette astrologie, comme les Chinois, chacun à sa manière, hein. Et l'observation du ciel va être très importante, avec un impact tout particulier sur le calendrier.
Pierre Léna, est-ce que vous avez rencontré, lors de votre enquête avec Christian Grataloup, des cultures qui ont inventé le géocentrisme avant Copernic et Galilée?
L'histoire du géocentrisme, c'est-à-dire la Terre au centre et tout tourne autour d'elle, Lune bien sûr, Soleil, planète, et puis l'ensemble des étoiles et du cosmos, par opposition à héliocentrisme, où le Soleil est le centre, non pas de l'univers, mais au moins du système solaire, planète et Terre notamment, qui tourne autour de lui, hein, cette question a agité... La seule culture qu'elle ait vraiment agitée, c'est la culture née autour de la Méditerranée, entre Babylone, Athènes et Alexandrie. Je crois que pour les Mayas, la question était sans intérêt. Elle n'avait pas été formalisée. Et d'ailleurs, leur connaissance de la géométrie était suffisamment rudimentaire pour ne pas leur permettre d'explorer sérieusement ce qu'ont fait les Grecs. En Chine, la conception d'une Terre centrale et du système solaire est une question qui n'a pas vraiment surgi non plus. Il fallait un bon modèle prédictif, mais par opposition à la culture méditerranéenne et grecque, la culture astronomique chinoise, qui a des résultat absolument remarquable que nous mettons en évidence dans l'Atlas dès le Xe siècle avant notre ère, ce qui n'est pas rien, et qui a le record de la première mention d'une constellation, la Grande Ourse, en moins 4500, ce n'est pas d'hier. Hein. Et cette culture chinoise, c'est représenter le ciel avec des nombres plutôt qu'avec des cercles et des droites comme l'ont fait les Grecs. Ils ont fait de l'arithmétique alors que les Grecs ont fait de la géométrie. Et j'ai trouvé que la géométrie a été plus féconde que l'arithmétique.
Quels ont été les arguments, Pierre Léna, de Copernic, finalement? Comment est-ce qu'il est parvenu, non pas à convaincre tout de suite, mais en tout cas à donner des preuves, qui n'appellent pas des preuves, d'ailleurs il les qualifie autrement, mais c'était quoi le truc?
Ce que nos concitoyens connaissent de ce formidable virage qui se produit entre 1550 et 1620, et puis ensuite Newton à la fin du XVIIe siècle, ce sont les noms de Copernic, révolution copernicienne, et de Galilée, ses procès. En réalité, c'est un long processus. Et pendant en particulier ce qu'on appelait l'âge d'or de l'astronomie arabe ou de la science arabe, c'est-à-dire du 8e siècle au 13e à peu près, hein, sur toute l'Eurasie, ça allait depuis l'Espagne jusqu'à Gengis Khan. Hein, donc, et là, le regard de Christian Grataloup était très, très essentiel pour moi. Hein. Pendant toute cette période, la mise en question du modèle grec qui s'était imposé, non pas pour des raisons d'autorité, mais parce qu'il permettait une précision de calcul sur les événements astronomiques, que ce soit le mouvement de la Lune, du Soleil, les éclipses, qui était remarquable et qui suffisait à tous les utilisateurs du ciel. Donc, on a interrogé pendant toute cette période, que ce soit dans ce monde islamique ou que ce soit dans le monde chrétien, on a interrogé la validité des hypothèses de Ptolémée, donc la Terre au centre, sans jamais la contester. Il n'y a guère eu qu'un scientifique, et on peut l'appeler comme tel indien, hein, qui a questionné, qui est revenu à l'idée que peut-être, après tout, ce serait mieux de mettre le Soleil au centre. Voilà. Alors, Copernic est encore un homme de l'ancien temps. Pourquoi? Parce que l'ancien temps est marqué par un postulat, une affirmation qu'on ne peut pas prouver, à savoir que on doit pouvoir décrire tous les mouvements observés dans le ciel avec des cercles parcourus à vitesse constante.
Parce que le cercle est une figure magique.
Parce que le cercle, non pas magique, mais parfaite. Et pourquoi le cercle est une figure parfaite? On peut y revenir, si vous voulez. Donc, ce postulat posé successivement par Platon, par Aristote, et par tous ceux qui les ont suivis dans le monde grec et méditerranéen, convient puisqu'il permet de faire des calculs précis, et Copernic l'adopte. Donc, Copernic est un homme de transition, en quelque sorte, puisque il garde ses modèle de représentation des mouvements hérités de 20 siècles plus tôt, mais en même temps, il simplifie la vision en mettant le Soleil au centre et en disant « la Terre est en mouvement, vous ne le percevez pas, vous ne le sentez pas, mais on peut, Galilée le dira mieux plus tard, le mouvement est comme rien ». On peut être en mouvement et ne pas le sentir, et tout le monde le sait aujourd'hui, dans un avion, on ne sent pas qu'on se déplace à 800 km/h. Et pourtant, par rapport au sol, on est en déplacement. Donc Copernic est cet homme de l'ancien temps, mais qui apporte un regard moderne. Et l'homme qui va faire, on l'appelle le passeur dans l'Atlas, qui va faire le passage vers le nouveau temps, vers la Renaissance, c'est Kepler. Parce que Kepler est le premier qui, après 8 ans de travail acharné, où il essaye indéfiniment de mettre en accord les observations de la planète Mars, dont il a hérité venant d'un troisième personnage, qui est Tycho Brahe, dont il a été l'étudiant. C'est une rencontre historique presque miraculeuse que la rencontre de ces deux hommes.
Deux hommes qui avaient de bons yeux.
Alors, Tycho est un observateur extraordinaire puisque il a amélioré la précision des mesures de presque un facteur 10, passant d'une dizaine de minutes d'arc, à un sixième de degré, à une minute d'arc. C'est pas tellement parce qu'il avait des beaux yeux, des bons yeux, mais parce qu'il a appliqué un principe que tous les physiciens d'aujourd'hui appliquent volontiers, c'est-à-dire que si vous faites un très grand nombre de fois la même mesure, vous réduisez l'erreur sur le résultat final en prenant une moyenne. Alors nous savons tous faire ça, c'est ce que Tycho a fait. Kepler a hérité de ces mesures extraordinaires de la planète Mars. Il a travaillé 8 ans. Et c'est passionnant de regarder, il raconte hein, dans un de ses livres le chemin qu'il a essayé. Il voulait pas abandonner Aristote, il voulait pas abandonner le cercle, il voulait pas faire le malin, dirais-je un peu vulgairement. Et finalement, il y est contraint. Les cercles ne sont pas corrects, les planètes, et Mars en particulier, se déplacent suivant des ellipses, et le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse, il est dans un des foyers. Et en ce sens, Kepler est l'avenue qui va mener à Newton et qui va transformer la mécanique du ciel.
Donc le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse que parcourt la Terre. Est-ce qu'on connaît la distance entre la Terre et le Soleil ?
Non. Et pendant très longtemps, on ne va pas connaître la dimension du système solaire. Et en fait, c'est une très vieille question, ça. C'est-à-dire, on voit le ciel à 2 dimensions, d'une certaine manière, comme si toutes les étoiles étaient peintes sur une sphère et que sur cette sphère, comme s'il y avait une bête à bon Dieu qui court sur la sphère, le soleil et la lune courent. Hein. Ça ne nous donne pas la profondeur. Donc la quête de la profondeur est une histoire qui commence avec Aristarque de Samos, en Méditerranée, en Grèce, hein, au 4e siècle, et qui continue aujourd'hui avec le James Webb Space Telescope, qui lui aussi essaye de mesurer la distance des galaxies les plus lointaines. Donc cette 3e dimension, c'est une conquête sur presque 5000 ans. Enfin, disons, 3000 ans. Et il y a eu des étapes très importantes. La première étape, elle est géniale. C'est celle d'Aristarque de Samos, qui mesure la distance de la Lune, avec un raisonnement géométrique très simple. Il mesure aussi la distance du Soleil. La méthode est très astucieuse, mais en fait, il ne pouvait pas mesurer correctement la distance du Soleil avec sa méthode purement géométrique. Mais quand même, il avait l'idée qu'on pouvait le faire. Il trouve un Soleil 10 fois plus loin que la Lune, ce qui est évidemment incorrect. Mais peu importe, c'était la manifestation de ce premier effort. Et puis, ça va continuer. Mais on va arriver au XVIIe siècle et on ne sait toujours pas les dimensions du système solaire. Et pourquoi on ne le sait pas ? Eh bien, parce que on n'a pas de moyens géométriques, en quelque sorte une règle hein, qui permette de déterminer ces distances. Il va falloir le génie de Kepler pour dire, mais quand une planète passe devant le Soleil et qu'on observe ce moment-là de 2 points différents de la Terre, alors on met en œuvre ce que j'appellerais volontiers pour nos auditeurs la règle du doigt et de l'œil, c'est-à-dire vous fermez un œil, vous mettez votre doigt vertical devant l'autre, vous clignez l'œil droit, l'œil gauche, et vous voyez que votre doigt se déplace vis-à-vis de l'arrière-plan. Eh bien, appliquant ce même principe qu'on appelle en termes savants la parallaxe, mais peu importe, appliquant ce même principe au passage de la planète Vénus devant le Soleil, qui motive en passant, nous l'évoquons dans l'Atlas, le voyage de Cook à Tahiti, avant qu'il ne découvre l'Australie. Ça montre d'ailleurs à quel point sont liés les enjeux de pouvoir à l'époque pour le roi d'Angleterre et de science pour la Royal Society, l'Académie britannique, hein, eh bien, ce passage de Vénus devant le Soleil, observé de 2 points différents de la Terre, nous donne une base d'observation qui nous donne la distance de Vénus avec une figure de géométrie qu'un élève de 3e est capable de reproduire. Même chose, mais 1 siècle plus tard, pour la détermination de la distance des étoiles. Elles sont très loin ou elles sont très proches ? Est-ce qu'elles sont toutes à la même distance ? Ou bien est-ce qu'on a un étagement ? Et c'est Bessel, en 1819 ou 1820, hein, qui va appliquer au fond la méthode du doigt et de l'œil, mais cette fois, la distance des deux yeux, il faut qu'elle soit plus grande parce que les objets sont plus loin. Donc, au lieu de cligner l'œil droit, l'œil gauche, on va mettre la Terre à 6 mois d'intervalle à 2 positions opposées à son orbite. Ça fait donc 300 millions de kilomètres à peu près, la distance. Donc, c'est 2 yeux assez distants. Et on va regarder la même étoile. Et si cette même étoile est assez proche, par rapport à l'arrière-plan des étoiles, eh bien, elle va bouger de position exactement comme notre doigt. Et je conseille à tous nos auditeurs de faire l'expérience pour se convaincre. Et connaissant la distance des yeux, on connaît la distance des étoiles. Connaissant ces 300 millions de kilomètres, on trouve l'étoile 61 du Cygne, une étoile pas très brillante, mais qu'on peut voir à l'œil nu dans la constellation d'été du Cygne. Hein, et s'apercevoir qu'elle n'a pas tout à fait, depuis ces 2 points d'observation, la même position par rapport à la sphère céleste.
Donc elles ne sont pas toutes à la même distance, mais quand on les regarde à cette époque-là, je parle de Bessel par exemple, 19e siècle, début 19e siècle, est-ce qu'on considère qu'elles sont dans notre présent, ou est-ce qu'on a déjà compris que la lumière qu'elles nous envoient a mis un certain temps à nous parvenir, de sorte qu'on les voit telles qu'elles étaient dans un passé plus ou moins proche?
On l'a compris, mais on n'en tire aucune conclusion. Et c'est une autre histoire que celle de cette idée de qui conduit au titre que nous avons donné à l'avant-dernier chapitre de cet atlas, l'univers se fait histoire. Parce qu'à partir du moment où les objets que nous voyons, comme vous venez de le rappeler, sont à des distances très différentes, la lumière ne nous parvient pas en même temps de ces objets. Nous regardons la Lune, la lumière est partie il y a 1 seconde. Nous regardons le Soleil, elle est partie il y a 8 minutes. Nous regardons Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de la Terre, elle est partie il y a 4,5 années. Et nous regardons la nébuleuse d'Andromède, qui est très bien visible dans notre ciel d'hiver en ce moment, une belle galaxie distincte de la nôtre. Et là, nous sommes à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Donc, cette hiérarchie des distances, qui est une hiérarchie de l'histoire, elle a été perçue au XXe siècle, au début du XXe siècle, à partir du moment où on a réalisé qu'on voyait des galaxies très lointaines, donc qui n'étaient pas nécessairement les mêmes qu'au moment où on les photographiait.
Donc en gros, jusqu'en 1930, on pense qu'il y a la Voie lactée composée d'étoiles, plus ou moins lointaines, mais on n'a pas encore compris qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre.
On l'a compris vers 1920.
Voilà, c'est les grandes révolutions. Et quand est-ce qu'on comprend que l'univers a une histoire? Je pense qu'on l'a compris depuis longtemps. Il y a même eu des livres de Kant ou d'autres expliquant que l'univers avait une histoire. Mais quand on parle de l'histoire de l'univers, on parle de celle du système solaire, du contenu en quelque sorte, pas de l'univers en tant que tel. Et l'expansion de l'univers, ça c'est les années 1930, c'est ça?
Oui, mais même cette idée que l'univers évolue, change, se transforme, est une idée qui n'a pas émergé avant la fin du 19e siècle. Et on le comprend en ce sens que la voûte céleste est un parfait exemple d'immutabilité, le ciel immuable, le ciel qui ne change pas.
Et calme en plus.
Et qui est calme. Donc l'idée qu'il peut se passer là-dedans des phénomènes extraordinairement violents. Alors, quelques phénomènes, quelques observations contredisent cette vision. Une supernova. Les Chinois ont observé en 1054 une supernova dont on connaît les traces dans le ciel d'aujourd'hui, explosion d'étoiles. Donc, il se passe des choses. Et d'ailleurs, les comètes ont joué un rôle fondamental, puisque Tycho Brahe a observé la comète de, il faut pas que je dise de bêtises sur la date, hein, mais de 1577, sauf erreur, hein, cette comète a été très importante, puisque l'hypothèse qui venait d'Aristote sur l'immutabilité de l'univers, rien ne devait changer au-delà de la Lune, qui était le dernier objet qui changeait d'apparence, finalement. Hein, l'objet le plus lointain. Au-delà, c'était un ciel immuable. Eh bien, Tycho Brahe montre, par ses observations de la comète, à nouveau en utilisant le doigt et l'œil, c'est-à-dire des observations faites de deux points différents en Europe, que la comète est au-delà de l'orbite de la Lune. Donc le ciel change. Et pour faire bonne mesure, quelques années plus tard, il a droit à une supernova. Donc le ciel est changeant. C'est peut-être là que le début d'une histoire, au sens où vous l'entendiez dans votre question, commence. Et puis on mettra longtemps à comprendre que les étoiles elles-mêmes évoluent, que le Soleil a une histoire qui a commencé, elle se terminera, que les planètes se sont formées à une époque, la Terre y compris, et que cette formation a elle aussi une histoire, l'émergence des continents, l'émergence de la vie. Oui. Mais donc c'est une notion assez moderne.
Avant que cette histoire de l'histoire de l'univers commence, on pense que les étoiles sont sur la sphère des étoiles fixes, à une distance qui est la même pour toutes. Et dans ce contexte, où se situe le paradis ? Dans l'Occident chrétien, disons.
Alors, nous avons aussi exploré un peu, parce que nous n'avions pas beaucoup de place pour le faire, comment les représentations du ciel religieuses, et en particulier dans les trois religions du livre, hein, christianisme, judaïsme et islam, hein, ont évolué. Parce que nous avons une trace tellement évidente en relisant dans la Genèse le ciel comme habitation de Dieu, de sa montagne, et puis il en reste des traces dans la prière des croyants aujourd'hui, « Notre Père qui êtes aux cieux », le Christ assis à la droite de Dieu le Père dans le ciel, l'Ascension, qui sont des relations du religieux avec le ciel, de quel ciel s'agit-il ? Alors, dans la classe, nous avons choisi, Christian Grataloup s'est beaucoup intéressé à cette double page, hein, la représentation du ciel par Dante. Hein, puisque dans le récit de Dante, on trouve à la fois le purgatoire, l'enfer et le paradis. Dans un chemin qui est un chemin symbolique pour l'humanité, mais que Dante représente en utilisant le modèle de Ptolémée, c'est-à-dire des sphères successives, avec d'ailleurs, comme dernière sphère, la sphère céleste où Dieu réside, c'est l'Empyrée. Et l'Empyrée est une sorte de remake, si on veut, de la quintessence des anciens, de la perfection du ciel de Platon. Oui, est-ce que je réponds à votre question ?
À vous qui êtes astronome depuis longtemps, Pierre Lénard, quelle est, parce qu'il y a beaucoup de découvertes depuis 40 ans, laquelle vous a le plus surpris ? C'est-à-dire, vous ne pensiez pas que telle ou telle découverte pourrait advenir de durant votre expérience professionnelle ? Est-ce que ce sont les ondes gravitationnelles ? Est-ce que ce sont les images de trous noirs ? Est-ce que ce sont celles du fond diffus cosmologique ? Au tout début de votre carrière ?
Vous citez trois découvertes fondamentales de l'astrophysique des 50 dernières années, qui sont toutes les trois liées à l'observation, mais qui résultent toutes les trois d'un calcul de physique, une prévision de la physique. Pour ma part, celle qui me passionne et qui était d'une certaine manière anticipée, mais dont l'issue était totalement incertaine, ce sont les exoplanètes. D'abord par leur proximité, autant comprendre le Big Bang, auquel nous consacrons tout de même une page, ou bien les ondes gravitationnelles demandent un effort intellectuel substantiel. Vous le savez, puisque vous leur donnez beaucoup de place dans votre émission. Mais les exoplanètes, c'est tout.
Mais aussi aux exoplanètes, nous avons reçu Michel Mayor il y a quelques semaines, le découvreur de la première exoplanète.
Voilà. Et les exoplanètes, c'est tout bête par rapport à ces superlatifs de la théorie physique. C'est-à-dire, ce sont des objets, peut-être comme la Terre, peut-être comme Jupiter, qui sont autour d'autres étoiles. Abritent-ils des atmosphères, une vie minérale, végétale, voire davantage, Les systèmes planétaires autour d'autres étoiles ressemblent-ils ou pas du tout? Y en a-t-il beaucoup ou très peu? Alors ces questions sont nées avec Michel Mayor en 1995 et depuis 30 ans maintenant, c'est une floraison extraordinaire de recherches, d'outils de découverte.
Mais Michel Mayor disait qu'il était lui-même surpris par la diversité des exoplanètes.
Voilà. Tous les spécialistes des exoplanètes disent ça. Notre collègue Anne-Marie Lagrange, grande française du domaine, le dit de la même manière. C'est une diversité qui, au fond, n'est pas très surprenante si on réfléchit. Nous étions tellement centrés sur l'idée est-ce qu'on va en trouver une qui ressemble à la Terre, que on aurait pu penser qu'on serait satisfait en ayant trouvé un semblant, une ressemblance avec la Terre dans une autre planète. En réalité, le foisonnement des formes, des tailles, des distances, des compositions de ces exoplanètes ressemble tout simplement au foisonnement d'une forêt primaire tropicale. On y voit des espèces extraordinaires de fleurs, d'oiseaux. L'univers est beaucoup plus généreux que notre imagination.
Mais Pierre-Léna, imaginons qu'on ait la preuve qu'il existe quelque part, sur quelques exoplanètes, une vie qui soit pas embryonnaire, une vie intelligente, consciente, analogue à la nôtre. Est-ce que ça vous changerait votre regard sur le ciel?
Ça m'intéresserait beaucoup. Et je suis certain que je ne verrais pas ça et que peut-être mes arrière-petits-enfants ne le verront pas. Parce que c'est un très long processus auquel il faut s'attaquer. Et puis, il y aura peut-être un coup de chance dans l'histoire à venir. Bon, tout est possible en réalité. Ce qui est intéressant dans la question que vous posez, c'est que nous n'aurons jamais la preuve que c'est impossible et que ça n'existe pas. Peut-être que la découverte viendra plus ou moins tôt, et on sera évidemment enchanté de l'explorer, mais nous n'aurons jamais la preuve contraire. Je ne pense pas, en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça changerait? Peut-être on reviendrait à ce vieux débat qui s'est déroulé à l'Université de Paris entre l'évêque de Paris et des professeurs de la Sorbonne de l'époque.
Quelle époque ?
14e siècle, à peu près. 14e, je crois. D'un côté, l'idée que... comment limiter la puissance de Dieu dans sa création en décidant que nous sommes les seules créatures? Quel droit la science aurait-elle de décider aujourd'hui que nous sommes les seules créatures, hein? Et de l'autre côté, nous représentons un achèvement de perfection. Parfois, en regardant l'état de l'humanité, on peut s'interroger là-dessus. Tel que...
On ne peut pas le banaliser.
On ne peut pas le banaliser. Et au fond, ce débat du XIVe siècle, d'une certaine manière, mais de façon non théologique, nous continuons à l'avoir aujourd'hui au sein d'une science qu'on appelle l'astrobiologie, qui se développe beaucoup, dans laquelle on essaie de comprendre de façon aussi rationnelle que possible, à partir de nos connaissances, les conditions éventuelle d'émergence de structures vivantes, c'est-à-dire d'une première cellule, puisque toute la vie sur Terre est basée sur l'existence de cet objet presque miraculeux qu'est la cellule.
Pierre-Léna, vous avez parlé tout à l'heure du James Webb télescope, qui est un télescope spatial installé à un point de Lagrange, comme on dit. Est-ce que vous attendez beaucoup de ces télescopes, comme Euclide par ailleurs, sur... qui mène des recherches à propos de ce qu'on appelle l'énergie noire? Et est-ce que vous attendez que la conquête spatiale, d'une façon générale, avec des hommes sur Mars, par exemple, pourrait vraiment changer la donne en matière d'astrophysique et d'astronomie?
Il y a plusieurs volets dans la question que vous posez là. Ce qu'on peut voir depuis 1950, donc les trois quarts de siècle qui nous précèdent et où j'ai eu la chance de vivre ma carrière professionnelle, c'est que ce qui a transformé notre vision du ciel, un peu comme du temps de Galilée d'ailleurs, c'est de disposer d'outils extraordinaires, d'avoir des techniques qui nous permettent de mettre d'abord sur Terre des télescopes, des radiotélescopes, ensuite dans le ciel, et le James Webb est le prolongement de Hubble, des instruments qui sont des prodiges de technologie. Je me demande souvent si le James Webb est pas, et ça est la mission qu'il a mise en position à 1,5 million de la Terre, n'est pas l'objet technologique le plus compliqué qu'on ait jamais fabriqué sur Terre. Donc, ce processus de découverte nouvelle à partir de ces outils, et en particulier les images que James Webb nous envoie, mais on pourrait citer d'autres missions comme Gaïa ou la mesure des ondes gravitationnelles, et d'abord le résultat d'une mobilisation et d'une qualité technologique appuyée sur l'informatique absolument prodigieuse. Donc ça, c'est le premier aspect. Et de ce point de vue-là, aller dans l'espace pour faire des images plus fines, moins perturbées par l'atmosphère de la Terre, même si nous avons fait de grands progrès sur ces méthodes de correction d'effets de l'atmosphère, et qui ont fait une...
Grâce à vous, d'ailleurs.
C'est pour ça que je les cite, bien entendu, par ma pure vanité. Mais aller dans l'espace, ça coûte cher, c'est compliqué, c'est une technologie difficile.
Surtout. Pas bon pour la santé.
Mais voilà. Maintenant, la question de l'homme n'est pas une question liée à ce progrès scientifique. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Parce que, regardez James Webb, c'est de la robotique intégrale. Hein, et ça fonctionne admirablement. L'exploration de Mars par des robots, y compris des robots capables de revenir sur Terre, comme la Chine nous l'a montré récemment, en ramenant sur Terre des échantillons sur la face cachée de la Lune, donc invisible, en particulier aux communications radio depuis la Terre, et en grattant le sol et en les ramenant vers la Terre, c'est tout de même une entreprise absolument prodigieuse. Maintenant, la présence de l'homme dans l'espace est une question sur laquelle se conclut le livre, puisque le dernier chapitre, c'est « On est allé dans le ciel », ce ciel qui n'était connu que par la lumière qui nous en parvenait. Tout d'un coup, on y va, on l'exploite pour regarder la Terre utilement, on le pollue avec des myriades de satellites, on l'utilise pour la guerre, puisqu'aujourd'hui, les armées spatiales sont des projets qui existent. Hein. On ne s'est pas doté de régulation internationale au niveau des Nations Unies.
Comme on l'a fait pour l'Antarctique.
Comme on l'a fait pour l'Antarctique, qui demeure un modèle. Nous n'avons qu'un traité de l'utilisation pacifique de l'espace qui date de 1967, évidemment bien avant tout ce qui se produit aujourd'hui. Pensez par exemple que les microsatellites mis en orbite par SpaceX, hein, représente 100 000 satellites prévus dans la décennie à venir. 100 000 objets tournant autour de la Terre dans un Far West qui manque de règles et qui menace en particulier le ciel étoilé. Il se pourrait qu'un jour, notre ciel étoilé soit un rêve du passé parce qu'il serait sillonné sans arrêt par des traces de satellites.
En plus de la pollution lumineuse.
Outre la une autre forme de pollution de trajectoire. Donc, l'avenir de notre présence dans le ciel, que ce soit le ciel proche ou le ciel plus lointain sur les planètes du système solaire, ou plus encore, les planètes qui se trouvent, et il y en a au moins deux, peut-être trois, autour de l'étoile Proxima du Centaure, dont je parlais tout à l'heure, 4,5 années-lumière, c'est tout près. Certaines manières. Hein. Qu'est-ce que l'humanité fera? De quoi se sent-elle responsable? Et c'est la conclusion de l'Atlas.
Alors, Pierre-Léna, vous avez cité comme découverte qui vous a le plus impressionné, la découverte des exoplanètes, parce que ce n'est pas une prédiction qui vient d'un calcul, mais quand même, il y a des découvertes qui ont été faites grâce à des calculs. Je pense aux calculs faits à partir des équations d'Einstein de la gravitation, celles des ondes gravitationnelles, prédites par Einstein dès 1916, découvertes pour la première fois en 2015, avec l'annonce en 2016, d'ondes gravitationnelles qui ont traversé la Terre, qui ont été créées il y a plus d'un milliard d'années par la fusion de deux trous noirs. C'est quand même très impressionnant de voir que le spectre temporel de ces ondes exactement conforme à ce qui avait été calculé pour un tel événement. Ça veut dire qu'on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers, qui a la propriété de ne pas être perturbée le long de son trajet dans l'espace par les objets qu'elle rencontre. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui correspond à Galilée en mieux?
C'est tout à fait extraordinaire. C'est probablement des développements pour plusieurs siècles devant nous. Un peu comme on l'a vu, la petite lunette de Galilée qui faisait quelques centimètres de diamètre. Enfin, dont
mais elle utilisait la lumière comme l'œil.
Et qui utilisait la lumière comme l'œil et qui s'est transformée dans le télescope européen de 39 mètres que nous inaugurons dans 2 ans. Il a fallu un long chemin technologique. Probable que pour ces ondes gravitationnelles, dont la détection est tout de même difficile, puisqu'elles sont 10 puissance 40 fois moins importantes en intensité que l'interaction lumineuse.
Oui, mais elles gardent une trace de leur origine, une signature parfaite.
Elles gardent une trace de leur origine, comme vous l'avez rappelé, elles ne sont pas affectées par tout ce qu'elles traversent, ce qui explique d'ailleurs la difficulté de leur détection. Donc c'est un champ nouveau pour les siècles à venir. Ce qu'on peut dire, il me semble, par rapport à la façon dont vous posiez la question, c'est pas la première fois dans l'histoire que la prédiction est suivie de la vérification. La gravitation de Newton a permis de découvrir la planète
Neptune,
que Le Verrier a trouvée par le calcul. Et que même les créateurs, un autre exemple, le trou noir, il résulte, vous le savez, directement de la relativité générale de 1915. Et son modèle a été calculé par Schwarzschild, ce savant allemand qui est mort malheureusement pendant la guerre de 14. Eh bien, Einstein a déclaré que cet objet était tellement absurde qu'il ne pourrait pas exister. Donc même le théoricien qui a écrit les équations d'un objet potentiel ne pouvait pas concevoir que la nature les réalise.
Mais justement, Einstein, il a prédit les ondes gravitationnelles en pensant qu'on ne pourrait jamais les détecter. Mais croyez pas au trou noir. À votre avis, qu'est-ce qu'il dirait si on lui présentait les résultats obtenus, à savoir que les ondes ont été détectées, et celles qui l'ont été ont été produites par la fusion de deux trous noirs, qui non seulement existent, mais peuvent fusionner.
On a peut-être un élément de réponse à votre question, je suis bien incapable de me mettre dans la tête d'Einstein, mais on a peut-être un élément de la réponse à ce qui s'est passé dans son modèle d'univers. Parce que, après cette relativité, il crée un modèle d'univers statique, dans lequel il n'y a justement pas d'histoire, le point dont nous parlions tout à l'heure. Or, l'abbé Georges Lemaître, belge, utilisant les équations d'Einstein, montre que d'autres modèles, parfaitement en accord avec ces équations de départ de la relativité, peuvent exister pour un univers en évolution, qui change au cours du temps. Einstein considère que c'est une idée tellement stupide qu'il publie un article montrant que ce n'est pas possible. Malheureusement, comme vous le savez, il fait une faute de calcul dans cet article. Il devra publier quelques mois plus tard un démenti, dire qu'il s'est trompé et que, au moins, le maître...
Oui, mais la constante cosmologique qu'il a introduite pour que ces équations garantissent un univers statique est un candidat possible aujourd'hui pour ce qu'on appelle l'énergie noire. Alors, il serait responsable de l'accélération de l'expansion.
Alors, c'est toujours vrai, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans l'écriture de l'Atlas. C'est-à-dire, de ces débats, on retrouve ça après la Grèce et la Méditerranée, de ces débats naissent des prises de position sur voilà ce qui est vrai, voilà ce qui n'est pas vrai, qui vont durer, qui vont être extrêmement fécondes d'ailleurs dans leurs conclusions. Et puis un jour, quelqu'un va dire « Oui, mais il y avait peut-être une autre possibilité, pouvons-nous faire une synthèse ?» Et on aura l'étape de la synthèse qui est celle qui va de Copernic, Kepler, Galilée et Newton. C'est un bon exemple. Ça a mis 15 siècles. Donc c'est un processus humain de façon de penser le monde finalement, qui est assez extraordinaire, parce qu'il aboutit à construire la vérité avec des morceaux de vérité, mais au lieu de se blesser, chacun brandissant son morceau de vérité, on arrive à reconstruire un paysage qui est encore plus beau que le précédent.
Voilà une image très harmonieuse, Pierre Lénard. J'ai une question à vous poser à propos du contenu de l'univers. Quand vous avez démarré votre carrière, j'imagine qu'on racontait que le contenu de l'univers, c'est de la matière, dont on a identifié les composants, c'est des atomes avec des protons, des neutrons dans les noyaux. Et c'est terminé. Et puis, petit à petit, les données montrent qu'il y a peut-être en plus une matière dite noire, dont on ne sait pas de quoi elle est faite, et puis une énergie noire, de sorte que la matière du départ ne représente aujourd'hui que quelques pourcents du total. Qu'est-ce que ça fait à un chercheur de comprendre qu'il y a des connaissances acquises qui augmentent notre ignorance ?
Qui augmente ?
C'est-à-dire, on sait qu'on en sait moins que ce qu'on croyait savoir à l'époque.
Je pense que c'est la grande leçon de ces 6000 ans d'histoire, et c'est celle que nous tirons dans l'épilogue.
On en sait quand même plus que les Grecs.
On en sait plus, mais il est plus que probable que nous soyons dans la même position que les Grecs par rapport à la richesse de la réalité. Et que la leçon que peut-être nos lecteurs tireront, s'ils choisissent la lecture de ce livre, c'est que c'est une leçon d'humilité, finalement, et d'admiration de la capacité humaine à progresser. Nous sommes à la fois extraordinairement limités, des nains, comme disait Pierre de Chartres. L'histoire montre qu'il y a des géants derrière nous et que les épaules de ces géants nous font faire un pas nouveau. Mais ce processus n'a aucune raison de s'arrêter. Et je fais, dans la conclusion, un plaidoyer pour faire confiance à la jeunesse, et en particulier, et ça c'est un point de vue politique au fond que j'énonce là, pour que la jeunesse du monde, qui aujourd'hui est très largement en Afrique, est totalement à l'écart de toutes ces connaissances. On n'oublie pas qu'il y a là un potentiel de créativité peut se révéler, pour autant que l'éducation transmette cet héritage formidable dont nous sommes sortis.
Ça sera ma dernière question, Pierre Léna. Vous êtes, je le disais en introduction, l'un des créateurs de la main à la pâte, qui va fêter bientôt ses
30 ans.
30 ans. Quel bilan vous en tirez ? Est-ce que les choses avancent dans le bon sens ? Ou est-ce que vous considérez que l'effort à mener pour diffuser les connaissances, notamment celles qui sont dans l'Atlas que vous venez de publier, soit mieux connues du grand public, notamment de la jeunesse?
Un des autres motifs d'écriture de cet Atlas a été le résultat de mon expérience de 30 ans de la main à la pâte, c'est-à-dire de voir que on enseigne la science, plus ou moins bien, à l'école primaire ou au collège. Nous avons travaillé pour qu'elle soit mieux enseignée, plus active, plus expérimentale. Mais on l'enseigne. Mais ce qu'on n'enseigne pas, c'est son histoire. Comment toutes ces connaissances sont-elles venues à jour ?
Comment elles sont devenues des connaissances ?
Comment elles sont devenues des connaissances ? De quoi sont-elles parties ? Et ce livre est d'une certaine manière, et grâce à Christian Grataloup et à sa participation comme géohistorien en particulier, est devenu ce que je voudrais qu'il soit, un outil pour les professeurs d'histoire et géographie. C'est-à-dire que on ne confine pas la science au cours de physique, de biologie, de technologie ou de mathématiques, mais qu'elle soit en dialogue avec le récit de son apparition depuis 6000 ans, c'est-à-dire le récit que tiennent nos professeurs d'histoire et de géographie.
Vous êtes un optimiste, Pierre Léna. Vous pensez qu'on va continuer dans 500 ans à envoyer des satellites, peut-être des humains dans l'espace ?
Ouais, je vous répondrai comme je l'ai répondu, comme Michel Serres m'a répondu un jour. Je lui disais, tu es optimiste, Michel ? Il me dit non. Détrompe-toi, Pierre, je suis un optimisateur. J'aimais beaucoup comme réponse.
Très belle formule, merci Pierre Léna. Merci d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande très vivement la lecture de votre atlas historique du ciel, écrit en collaboration avec Christian Grataloup. C'est paru aux éditions Les Arènes, avec une coédition de Sciences et Avenir et de La Recherche. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Sofiane Aktib et à la réalisation Luc Jean Reynaud.